bonsoir. Vous êtes sur RFI Roumanie et vous écoutez l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Vallier, délégué général de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, qui était en visite à Bucarest fin avril. C'est Anna Maria Boghean, conseillère générale à la municipalité de Bucarest, qui m'a mis en contact avec Frédéric Vallier et son équipe. Je l'en remercie. Avec lui, nous allons évidemment revenir sur son séjour en Roumanie. Mais d'abord, qu'est-ce que l'AIMF, ce qu'elle promeut, son actualité? Frédéric Vallier, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des délégués généraux de votre type, je dirais, ici à notre émission. Donc, c'est un vrai plaisir. Alors, parlez-nous de l'AIMF d'abord. Comment cette association est née, ce qu'elle promeut et son actualité dans les grandes lignes?
L'AIMF, donc l'Association internationale des maires francophones, réunit l'ensemble des maires des villes capitales de l'espace francophone et des métropoles. Alors, à ce titre, évidemment, l'AIMF est opérateur de l'Organisation internationale de la francophonie, opérateur de la francophonie et participe au développement de la francophonie dans le monde. L'association a été créée en 1979. Par le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, et le maire de Québec, Jean Pelletier, qui sont considérés comme les deux fondateurs. Et puis, l'association a grandi, et aujourd'hui, nous réunissons 350 villes dans 57 pays dans le monde, dont, bien sûr, la Roumanie, qui est un pays qui est partenaire de la francophonie. Et donc, notre objectif est double, à la fois permettre aux maires de se réunir, d'échanger des pratiques, d'apprendre les uns des autres, de se connaître, de créer des liens de confiance et d'amitié, mais aussi de développer des programmes de coopération. Et à ce titre, l'AIMF a son propre fonds de coopération qui permet d'investir dans les villes francophones pour des projets directement liés à l'action locale, à la fois des projets de essentiels à la vie de la ville, mais aussi des projets culturels, des projets d'éducation, des constructions d'écoles, par exemple, dans les pays du Sud, mais aussi des projets d'assainissement, de gestion de l'accès à l'eau, etc., etc. Donc, c'est une mission à la fois de solidarité, mais de construction culturelle entre les villes francophones.
D'accord. Et quand vous dites que vous êtes opérateur de la francophonie, c'est-à-dire quel est le lien entre l'AIMF et l'Organisation internationale de la francophonie?
Alors, nous sommes indépendants de l'OIF, mais nous sommes reconnus opérateurs par les chefs d'État de la francophonie.
D'accord.
Donc, il y a quatre organisations qui sont opérateurs. L'AIMF, l'Université Senghor d'Alexandrie, qui est l'université de la francophonie, l'AUF, qui est l'Agence universitaire francophone, qui réunit les universités de l'espace francophone, et TV5Monde, que vous connaissez sans doute, qui est le média francophone international de télévision.
D'accord, merci Frédéric Vallier pour ces précisions. Alors, vous êtes le délégué général de cette association depuis 2 ans. Avant cela, et vous me direz si je me trompe, vous avez notamment été le secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe de 2010 à 2022, poste au sein duquel vous vous êtes particulièrement impliqué, et là je cite les informations que votre EPIC m'a transmises, dans l'élaboration des objectifs du développement durable et la reconnaissance des autorités locales dans la lutte contre le changement climatique. Quelque part, le lien entre ces deux postes est, me semble-t-il, naturel. En d'autres mots, comment, selon vous, la protection de l'environnement doit-elle désormais être au cœur de tout développement urbain?
Ben, on le voit chaque année avec l'évolution du climat. On voit bien, je suis à Paris et cette semaine dernière, nous avons vécu une canicule exceptionnelle avec des températures qui ont atteint 43 ou 44 degrés dans la capitale française, ce qui est absolument exceptionnel. Mais l'exception devient la règle partout dans le monde. Malheureusement, on voit bien que les événements climatiques extraordinaires se cumulent, que ce soit les tempêtes, que ce soit les ouragans, que ce soit les périodes de canicule ou à l'inverse les périodes d'extrême inondations ou perturbations. Et tout ça, c'est le résultat, malheureusement, du dérèglement climatique que nous vivons. Et les villes sont au cœur de cette action-là parce que, d'une part, elles concentrent les plus grandes parties de particules et de CO2, hein, de production de CO2, et en même temps, elles sont les premières victimes de ces phénomènes. Donc, elles doivent à la fois agir pour protéger la population, agir pour adapter leur territoire. Aujourd'hui, les villes, elles sont confrontées à une nouvelle pensée urbanistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on verdit la ville, comment on diminue la place de la voiture, comment on fait en sorte qu'il y ait plus de parcs, plus de zones apaisées en termes de climat, comment on fait en sorte d'éviter les phénomènes d'inondations ou les phénomènes extrêmes, et en même temps, comment on contribue à l'amélioration du climat en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça, c'est un travail, c'est quelque chose que je suis depuis très longtemps, puisqu'en fait, je travaille pour les collectivités locales et leurs réseaux depuis plus de 30 ans, hein, à diverses fonctions. Mais c'est un sujet qui m'intéresse et qui est important pour nous, pour les villes et pour les réseaux de villes depuis, je dirais, une vingtaine d'années, parce qu'on a pris conscience que c'est dans les villes et au cœur des villes qu'on peut changer aussi les choses.
Évidemment, votre fonction vous amène à rencontrer beaucoup de gens, à faire pas mal de voyages un petit peu partout. Et c'est vrai que dans la presse, enfin, dans les médias de façon générale, on entend parler des grandes lignes de ce qui se passe et ce n'est pas très positif de façon générale. Mais vous, dans les gens que vous avez rencontrés toutes ces années, et toujours aujourd'hui, dans les voyages que vous faites, est-ce que vous diriez que au niveau local, vous avez été témoin, vous continuez à être témoin d'actions de gens qui font des choses et qui font que certains problèmes arrivent à être résoudre. Quelque part, est-ce que votre opinion, malgré des données qui sont assez catastrophiques par certains à beaucoup d'écarts, de façon générale, est-ce que quand même il y a des clairières qui permettent d'être un peu optimiste?
Ben oui, moi je crois qu'il faut rester optimiste. Donc, et je suis convaincu que ce sont les villes qui peuvent justement porter ce changement. Et elles le font. Elles le font parce que je rencontre effectivement beaucoup de responsables locaux, beaucoup de maires qui ont conscience de la nécessité de conduire ce changement. Et quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques, je dois dire que les maires ont conscience des changements à produire dans leur ville. Et on voit bien, d'ailleurs, si vous voyagez aussi un peu ou si vous regardez un peu ce qui se passe dans les villes, il y a de plus en plus de zones à faible émission, ce qu'on appelle des zones protégées, beaucoup plus de piétonnisation, beaucoup plus d'utilisation des transports en commun. Le développement du transport en commun ces 30 dernières années a été très important. Le verdissement, la nécessité de réduire la place de la voiture. Alors, je sais que c'est très compliqué parce que c'est pas toujours très très populaire, hein, les citoyens sont parfois très très ambivalents. D'une certaine manière, ils veulent que leur ville soit plus apaisée et moins polluée, et en même temps, ils veulent tous pouvoir continuer à conduire leur voiture et à l'utiliser quotidiennement. Mais il faut aussi, et c'est le rôle aussi des maires et des élus, les convaincre qu'il y a d'autres choix possibles. Et aujourd'hui, on le voit dans certaines villes, où finalement le transport en commun est devenu la norme, où le vélo a repris sa place, Il y a plus de pistes cyclables, plus de zones piétonnisées, comme je le disais tout à l'heure, et donc d'autres formes de mobilité qui permettent d'assurer une vie meilleure. Mais ça passe aussi, et dans le sud global, ça passe aussi par l'invention d'une autre forme d'urbanisme. C'est-à-dire que c'est vrai, au XXe siècle, on a construit des villes qui étaient de plus en plus étendues, de plus en plus denses, de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, on doit inventer un modèle de développement qui permet à la ville à la fois de se développer, parce que la population augmente encore dans beaucoup de parties du monde, mais en inventant des systèmes et des modèles qui, dès le départ, garantissent le verdissement, l'utilisation des transports en commun et la limitation au maximum des transports polluants, puisque c'est ça qui pose problème.
Et donc, vous avez en tête des exemples de villes du Sud, hein, je pense notamment, par exemple, à l'Afrique, qui passent des étapes et en mode accéléré, peut-être ne font pas les mêmes erreurs que nous et arrivent relativement plus vite que par rapport à ce qui s'est passé dans les villes du Nord, à aller de l'avant. Vous avez des exemples de ce type ?
On a, à la IMF, on a créé un réseau qui s'appelle l'urbanisme en francophonie, qui réunit justement des chercheurs, des urbanistes, des élus locaux, des étudiants également, des jeunes, qui réfléchissent à la ville de demain et qui inventent un modèle de ville qui soit plus durable. Et nous avons des exemples. Alors, moi, je pense aux villes du Maroc, par exemple, qui ont développé des tramways. Aujourd'hui, presque toutes les grandes villes du Maroc ont des tramways. Elles sont beaucoup, beaucoup plus vertes qu'on ne pourrait imaginer pour un pays qui est quand même aussi au sud et qui où il fait assez chaud. Mais je pense aussi à des villes comme Abidjan, où on travaille sur la restauration de la mangrove. Vous savez que les mangroves, ce sont ces zones un peu humides des côtes qui sont très très attaquées par la pollution et par l'élévation du niveau de la mer. Donc il y a tout un travail aussi sur la restauration des mangroves qui protègent les côtes. Il y a tout un travail aussi sur le bassin de la Guinée, le golfe de Guinée, pour protéger les côtes de l'érosion et en même temps réfléchir à construire des villes qui puissent justement permettre de maintenir ces côtes et ces atouts. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent. Il y a aussi des réflexions sur les méthodes ancestrales, par exemple pour garder l'eau, puisque on a aussi beaucoup de zones qui sont touchées par la sécheresse. Et donc il y a un retour, une réflexion sur comment les ancêtres faisaient pour garder la fraîcheur et garder l'eau dans les villes. Peut-être que ceux qui ont voyagé un peu ont eu l'occasion de visiter des villes où les rues sont très étroites, mais ça me permet de garder le frais dans les villes l'été. Ben, il y a des choses comme ça qu'il faut réimaginer pour sortir du modèle du XXe siècle avec les grandes avenues, la place de la voiture partout, qui n'est plus un modèle acceptable au XXIe siècle.
Oui. Et parallèlement à ces politiques, nouvelles politiques d'urbanisme dont vous faites référence, est-ce qu'il y a aussi des formations, une politique d'éducation, de sensibilisation, parce que on le voit ici à Bucarest par exemple, mais il n'y a pas qu'à Bucarest, on voit que la voiture est véritablement, comme vous l'avez déjà dit, quelque chose d'important, hein, on montre quelque part de quelle catégorie sociale on vient en ayant la plus grosse voiture et le plus voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est encore très ancré. Ça se comprend aussi de par le passé du pays. Hein, la voiture, la belle voiture, pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est assez récent. Et je me demande comment, quand une ville comme Bucarest va réussir à avoir, ben voilà, à mettre en place une politique urbaine efficace, quand on voit comment la voiture est ancrée dans les habitudes des citoyens.
Mais oui, vous avez raison. La voiture, c'est un marqueur social. Quand on a une belle voiture, un beau SUV, on a l'impression qu'on est un peu socialement plus inclus. Ben, il faut changer ça. Il faut changer cette mentalité.
Moi, comment on fait? Comment on fait pour changer cette mentalité?
Eh ben, ça passe par l'éducation, ça passe par les émissions comme vous en faites vous-même, aussi à la télévision, et puis faire comprendre peut-être aussi par les jeunes que finalement peut-être que le marqueur social de demain, c'est de pouvoir circuler à vélo dans la ville. C'est de pouvoir aller chercher ses enfants à pied à l'école dans un environnement apaisé et sain. C'est de pouvoir vivre de façon, propre et apaisée. C'est ça. Moi, je prends plaisir à pouvoir aller marcher à pied dans ma ville, découvrir des paysages qu'on ne découvre pas quand on est en voiture. Donc ça passe par une restauration de la ville et par une autre approche de la ville. Et je crois que même, vous voyez, à Bucarest, j'ai eu l'occasion de discuter avec le maire de Bucarest, qui est un jeune maire qui a beaucoup d'idées, et je pense qu'il est assez convaincu aussi de la nécessité de réformer la ville pour faire plus de place aux cyclistes et de faire plus de place aux piétons. Pour limiter la place de la voiture, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est pas toujours très populaire auprès des populations. Donc il faut changer les mentalités. Et quand les gens changent d'habitude et découvrent que le plaisir qu'il y a à profiter de la ville autrement, je pense que ça se fait. Mmh. Mais voyez, je vais prendre des exemples. La piétonnisation, c'est quelque chose qui, au départ, quand un maire décide de piétonniser un quartier, il y a toujours des levées de boucliers, que ce soit les commerçants ou les riverains, qui disent « Ah là, mon Dieu, je vais plus pouvoir venir en voiture, me garer, etc. » Une fois que c'est fait, les gens apprécient beaucoup, applaudissent, et finalement, il y a plus de monde dans les rues pour aller dans les commerces. Il y a moins de pollution et finalement tout le monde est content. Donc ça passe aussi parfois par de la volonté politique de changer les habitudes.
Mmh. Comment vous l'avez trouvé cette ville Bucarest? Alors vous y êtes resté peu de temps, mais quel sentiment avez-vous eu quand vous l'avez traversée?
Moi, j'étais déjà venu à Bucarest dans le passé. Pour mon ancienne fonction, j'avais eu l'occasion de venir déjà. Moi, je trouve que c'est une ville qui a un potentiel énorme, qui est une ville avec un patrimoine qui est bien sûr encore à restaurer, hein, mais qui a un potentiel énorme et où on peut effectivement mettre en place des politiques durables. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de voitures, hein, c'est très congestionné. Il y a beaucoup de grosses voitures, comme vous le disiez, les gens aiment bien avoir leur voiture. Mais je pense que ça peut changer. Et franchement, il y a c'est une ville où il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'avenues. Qui peuvent laisser la place justement à une voirie partagée. Hein. Donc,
il y a de l'espace pour faire des choses, oui.
Il y a de l'espace pour faire les choses. Et c'est important de dire qu'il faut partager la ville, en fait. Il ne s'agit pas d'interdire les voitures, parce qu'on oppose souvent les choses. Bien sûr que dans les villes de demain, il y aura encore de la circulation automobile, mais il faut savoir partager l'espace. entre les différents modes de déplacement, et c'est ça qui est important. Et à Bucarest, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça.
Mmh. Et en vous écoutant, je pensais, il y a une autre ville qui est tout près, c'est Chișinău, la capitale de la République de Moldavie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la visiter. En tout cas, j'y étais récemment. Et vous connaissez cette ville?
Oui, je suis venu à Chișinău.
Ouais.
Et là, qui est d'ailleurs membre de l'IMF aussi.
D'accord, oui. D'ailleurs, je l'ai trouvée récemment, alors notamment au printemps, très verte et très francophone. Vous avez dans le centre des cafés qui portent un nom français, avec de la musique française. Elle est très verte, elle est très, très propre. Enfin, j'ai été vraiment charmé par cette ville et j'en profite pour saluer nos auditrices et auditeurs de Chișinău, en tout cas. Alors, c'est une plus petite ville, évidemment, c'est peut-être plus facile à gérer, mais en tout cas, je ne savais pas qu'elle faisait partie de votre association. Bon, bah, c'est très bien, j'en suis ravi.
Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, je salue les habitants et les habitants de Chișinău. C'est évidemment une ville plus petite, mais qui là aussi a beaucoup de potentiel et qui traverse des périodes quand même compliqué, hein, avec le conflit en Ukraine, et donc on a une pensée évidemment très forte pour les Moldaves et pour cette ville. Moi, je dois dire que il y a un lien très fort entre évidemment la Moldavie et la Roumanie, on sait pourquoi, mais aussi entre ces deux pays et la France, historiquement, culturellement. Ce sont des pays latins et nous sommes, nous partageons un grand socle de culture, on peut dire. Hein. Il y a énormément d'écrivains roumains qui ont écrit en français d'ailleurs et qui sont reconnus et qui participent de la culture francophone. Et donc pour nous c'est très important. Les universités roumaines accueillent énormément d'étudiants français, mais aussi francophone d'Afrique et d'ailleurs. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important de conserver ce lien à l'intérieur de la famille francophone pour à la fois accompagner le développement de ces pays, le développement de ces villes, mais aussi pour garder cet esprit de réflexion que nous avons, le mode de réflexion que nous avons, qui est un peu différent du mode anglo-saxon. Et pour nous, c'est aussi un enjeu de maintenir ces liens et maintenir cette culture que nous avons en commun.
Et précisément, quand vous dites que le mode de fonctionnement, enfin le mode de pensée entre la façon de faire anglo-saxonne et la façon de faire francophone est différente, est-ce que ça vaut aussi dans le développement urbanistique? Est-ce que vous différencieriez la façon de voir des anglo-américains, on va dire, avec la France francophone, pour le développement urbain?
J'allais vous dire j'espère, parce que je connais bien aussi les États-Unis. C'est un pays que je respecte beaucoup, mais le mode de développement urbain qui a été et qui continue d'être celui des États-Unis, c'est un étalement urbain absolument gigantesque. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes territoriales que nous, mais moi je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter Los Angeles. Pour moi, c'est un enfer, cette ville. Donc, une ville qui s'étale sur 50 kilomètres avec des pavillons à perte de vue, des voitures, des bouchons partout, et elle a une difficulté énorme à mettre en place des transports en commun parce que les distances sont trop grandes. Donc c'est vraiment pas un modèle pour nous.
Puis vous avez d'autres villes quand même. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Londres, par exemple, a mis par contre a mis en place des politiques comme une taxe pour entrer dans le centre de Londres, je crois. Je pense que c'est toujours valable.
Tout à fait. Oui, bah écoutez, Londres a mis en place des politiques qui sont intéressantes aussi. Hein. C'est vrai que c'est une ville aussi où il y a beaucoup de travail qui a été fait sur ces questions-là. D'ailleurs, on travaille aussi avec nos amis anglais et d'autres pays, hein, pour voir. C'est pas, c'est vrai que on a une en Europe, je pense qu'on a une réflexion qui est beaucoup plus avancée sur les questions de pollution, de qualité de l'air, de réduction de la voiture et de développement du transport en commun. Donc, c'est des choses qu'on partage aussi à l'intérieur de l'espace européen. Mais je pense qu'on a, nous, francophones, j'allais dire peut-être un supplément d'âme à apporter, parce qu'on a, on a conscience aussi du patrimoine, de l'enjeu que ça représente, de la culture en ville, de la construction d'espaces partagés peut-être et publics plus importants que dans des pays anglo-saxons, où les choses sont beaucoup plus privatisées et où on a moins le sens du
commun. Du commun, ouais. Frédéric Vallier, j'ai une question projetons-nous un petit peu sur la ville de demain qui, semble-t-il, pourrait être, en tout cas, ça se passe, je crois, déjà en Asie, peut-être en Californie, il y a des taxis volants. C'est pas du tout dystopique, hein, c'est en train de se réaliser, c'est-à-dire que voilà, il y a des villes qui vont être de plus en plus remplies de le ciel des villes, non seulement avec les taxis volants, mais aussi les drones, va être de plus en plus pollué, semble-t-il, entre guillemets, avec des objets volants. Donc, on sera sorti peut-être de la voiture individuelle pour rentrer dans une autre forme de pollution, ne serait-ce que pollution visuelle. Mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je crois que les taxis volants, c'est pas pour tout de suite quand même. Hein.
Ça peut arriver vite. Oui.
On a de plus en plus de voitures sans conducteur. Ça, c'est quelque chose qui va se développer certainement. Des transports automatisés. D'ailleurs, on en a déjà des métros automatisés sans chauffeur, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont se développer. Je crois qu'il y a, il va y avoir des formes de transport qui vont se diversifier, qui se diversifient déjà d'ailleurs, hein, puisque on voit bien que maintenant les trottinettes électriques, les scooters électriques sont aussi très à la mode. Donc ça nécessitera pour les villes de réfléchir à comment on met en forme toutes ces modes de déplacement et comment on les intègre aussi à la ville. Alors moi je crois beaucoup qu'il va y avoir des modes de transport électriques, donc non polluants, qui vont se mettre en place. On suit ça avec beaucoup d'attention, mais je crois plus au transport collectif qu'au taxi volant, pour être honnête. Je crois l'homme a quand même une grande capacité à trouver les moyens de polluer son environnement. On pollue d'ailleurs beaucoup notre espace, hein, puisque maintenant vous avez des Starlink et des
satellites
en grand nombre autour de la Terre, dont on ne sait pas ce qu'on fera d'ailleurs quand ils ne seront plus efficients. Donc on devrait quand même aussi réfléchir à comment on envisage le futur du 22e ou 23e siècle. C'est peut-être déjà maintenant qu'il faut y penser.
Mais Frédéric Vallier, je vous remercie. Ça a été très intéressant pour nous de vous avoir au micro du soir. Bonne continuation et surtout, n'hésitez pas à nous dire la prochaine fois que vous venez à Bucarest, parce qu'à ce moment-là, on vous invitera au studio, au très beau studio de RFI Roumanie. D'accord.
Avec grand plaisir. Merci pour votre invitation.
Merci, Monsieur Vallier. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est tout pour ce soir. J'en profite pour saluer une nouvelle fois les auditrices et auditeurs de Chisinau. Et cela faisait longtemps. Petit avis, petite information routière, faites très attention si vous partez en week-end sur les routes. Vous savez que les routes de Roumanie sont particulièrement dangereuses. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Merci à vous. Week-end plein coûte. Au revoir.